Jeudi 26 septembre 1968, le Québec prend le deuil. La population québécoise vient de perdre son chef. Aussitôt, quantité de messages affluent de partout qui témoignent de la haute valeur de Daniel Johnson, ainsi que du rôle essentiel qu'il a joué dans la vie de la province. Toutefois, si la vie publique de Daniel Johnson nous est familière, bien peu de gens peuvent prétendre connaître la personnalité intime de l'homme. Quelles étaient ses qualités, ses défauts, comment voyait-il la vie de famille, avait-il des loisirs, bref, tout ce qui concerne la personne même de Daniel Johnson nous est à peu près inconnu. C'est cet aspect de l'homme que nous avons voulu faire revivre pour vous encore quelques instants.
Monsieur Johnson, c'était sa simplicité de, avec qui on pouvait causer. Il n'était jamais distant, on pouvait toujours l'approcher en aucun temps. Ses amis personnels, comme j'en étais un, mais également tous les amis qu'il connaissait de loin ou de près. Il avait cette facilité aussi de se rappeler des noms, du premier nom. Le nom des épouses, des membres de la Chambre de commerce des jeunes dans le temps. Alors ça, c'est un point. Encore aujourd'hui, on sait que combien de poignées de main il a donné dans différentes réceptions. Et puis, à tout moment, ici, au Club Renaissance, on voit M. Intel, il s'informait même de l'épouse Intel qui était parent avec un autre. Alors, c'est une chose qui est assez remarquable de voir que cet homme avait une mémoire phénoménale.
Nous initions souvent à une table ronde, à un restaurant près du Château Frontenac à Québec. Et j'étais constamment assis avec mes compagnons de l'équipe libérale et ils venaient se joindre à nous pour discuter aimablement avec nous. Et sa personnalité attachante m'avait dirigé. Nous étions devenus de grands amis. Et bonjour, j'ai joint son équipe en lui disant, bien, je ne suis peut-être pas du parti, mais disons que je suis un Daniel Johnson.
J'ai connu M. Johnson par l'intermédiaire d'un ami commun, qui était Maître Louis-Joseph de Durantais. Et la dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler avec M. Johnson, c'était au moment du lancement de mon dictionnaire Les difficultés de la langue française au Canada. M. Johnson, à qui j'allais offrir un exemplaire de luxe de cet ouvrage, m'a reçu dans ses bureaux devant les membres de la presse et précisément, il a rappelé ses relations communes que nous avions eues avec Maître Desurantais, qui avaient été des relations extrêmement riches au point de vue personnel parce que tous les trois, nous avions le même souci d'amener le Québec, le même souci pour ce qui est de la langue au Québec. Nous tentions tous les trois d'amener le Québec à une revalorisation de son langage et à des relations plus étroites avec, en somme, la vie, les mœurs de la civilisation française. Et il y avait entre nous trois, c'était très intime et très étroite passion du français. Une passion qu'il a exprimée dans sa dernière conférence de presse, qui a été télévisée de façon remarquable. Et je crois que là-dessus, il laisse un testament politique.
J'avais trouvé chez cet homme des qualités humaines extraordinaires que l'on ne rencontre malheureusement pas assez souvent chez les gens, non seulement dans la politique, mais dans le monde des affaires. Il était simple, il était jovial, et il était toujours extrêmement serein. Mais ce qui m'avait frappé chez lui, c'était ce caractère humain qu'il caractérisait. Il épousait toujours les ennuis des autres, déplorait le malheur des autres, cherchait toujours à tendre une main secourable à même les adversaires politiques. Et il était, comme je l'ai dit et je me répète, une personnalité extrêmement attachante, à tel point que je me suis rangé à côté de lui. Il était plus jeune que moi de beaucoup, moins expérimenté que moi en politique. Et je m'étais plu à travailler de concert avec lui. Je voyais en lui, dès les premiers moments que je l'ai connu, et c'est très vrai, ce qui paraît assez étrange, un homme qui avait de l'étoffe pour être un premier ministre. Un premier ministre humain, compréhensif, dont le dialogue était extrêmement facile. Souvent, chez les politiciens, dans les rangs élevés de la politique, ils n'aiment pas à dialoguer. Ils sont catégoriques, ils n'aiment pas à ce que l'on ne partage pas toujours leurs idées. Mais lui était ouvert à la discussion, à la contradiction, au dialogue.
Je passe pour un homme patient. Je passe pour un homme calme. Ça ne veut pas dire que ça ne bouille pas en dedans de temps à autre, mais disons que j'ai appris à me dominer. J'ai appris à force de m'y appliquer. Mon caractère, il est comme celui de tous les hommes. Il est formé de qualités et de défauts. Les unes des qualités, évidemment, d'opposition en parle moins souvent, mes défauts seront certainement plus exposés au public que mes qualités, mais on demeure des hommes, mêlés de bons et de mauvais, mêlés de meilleurs et de pires, mais il reste que le métier lui-même nous influence et finit par nous marquer. Il faut être, en politique, un altruiste. Si on n'est pas altruiste, si on n'a pas le goût de rendre service à la population, on est mieux de ne pas entrer en politique. Si on est bien attaché à l'argent et si on veut devenir très riche, se bâtir un empire financier, on est mieux de ne pas entrer en politique. Il faut préférer se pencher sur le problème, un problème humain, le problème d'une famille prise dans la misère, le problème des jeunes sans parents, le problème des loisirs de cette jeunesse désœuvrée, ces chômeurs. Il faut être plus intéressé par ces problèmes que par l'argent, autrement on ne réussirait pas en politique.
Johnson est né le 9 avril 1915 à Danville, petit village des cantons de l'Est. Son père, Francis Johnson, est d'origine irlandaise, mais sa mère, Marie Danielle, est canadienne-française. De là, sans doute, lui vient cette extraordinaire facilité à s'exprimer dans les deux langues, bien que sa langue maternelle ait été le français.
Il y avait une maman, c'était tout en or, sa mère. Oh, quelle charmante personne. Je l'ai bien connue, sa mère, parce que moi, je suis devenue veuve à 26 ans. Alors, j'ai tenu maison. Je gardais une bonne plante, je tenais maison. Puis je suis pensionnée en dehors. J'ai pensionné plusieurs années avec sa mère. C'est une charmante personne. Moi, je lui disais, sa mère était charmante. Elle était belle comme une cœur. Elle était très gentille, sa mère. Elle était fine et belle. Elle était bien fine, puis bien bonne.
Les Johnson sont de conditions modestes. Et Danielle, aîné de 10 enfants, n'a pas la vie facile des enfants de riches.
J'avais, dans ma jeunesse, souffert, évidemment, dans cette période de crise. J'avais souffert du manque de sécurité qu'a connu le papa et toute la famille, et du manque de législation sociale qui a fait que nous avons été éprouvés chez nous plus qu'ailleurs, peut-être. Alors, dans cette période où l'idéalisme vous étreint, j'ai décidé qu'un bon jour, j'essaierai de rendre service à la population, à tous ceux qui manquent de sécurité et qui manquent d'aide sociale.
Après ses études primaires, il réussit à entrer au collège grâce à l'aide financière d'une bonne dame qui l'a en quelque sorte protégé tout au long de ses études.
C'est moi qui l'ai mis au collège. Et puis, qu'il est fait ce qu'il était, ce qu'il est devenu, vous savez. Et puis, je l'ai toujours protégé. Quand il venait chez nous, il venait chez nous. C'était la chambre de Daniel. Alors, c'était plutôt comme mon fils, vous savez. Alors, il s'installait. Et puis, il restait le temps qu'il voulait. Et puis, c'est moi qui voyais à son collège, qui l'habillait. Puis, enfin, je faisais ça pour lui comme je faisais ça. La même chose pour d'autres. Mais naturellement, Daniel, je l'hébergeais, chose que je ne faisais pas toujours. Il y avait son père et sa mère. Ils étaient dans l'impossibilité de faire ce que je pouvais faire. Moi, je restais à Granby, puis lui restait à Montréal, mais je l'ai toujours occupé. Nos relations ont toujours été les plus agréables. Je n'ai jamais eu de misère avec Daniel. Il a toujours accepté ce que j'ai proposé. Oh, il était très reconnaissant. À chaque occasion, les Noëls, toujours des bonnes lettres, on a changé bien de la correspondance, enfin tout ça. C'est un garçon doux, très doux. Et pour moi, vous savez, il se rendait bien compte de la vie que je lui procurais en le mettant au collège de Saint-Hyacinthe. Et puis ensuite, il est arrivé à l'université ici. J'y ai toujours vu ici. Et je voulais qu'il soit à l'égal de ses voisins, mieux partagé que lui. Puis, il était un garçon qui arrivait assez bien dans ses études, vous savez. Pas un des premiers, mais pas le dernier non plus. C'était un garçon qui était facile d'accès, un homme très doux, un bon garçon. Un garçon qui faisait aucun abus. Si je lui donnais de l'argent, c'était très bien. Et puis, si je ne m'en donnais pas, ça paraissait pas. Alors, vous savez, pour un jeune garçon qui était très attrayant et charmant, puis qui n'a pas beaucoup d'argent, et qui sort avec les jeunes filles, des fois, ça devait être embarrassant. Mais je lui demandais, comment est-ce que vous tirez d'affaire, Daniel Rose, bien ça, bien ça. C'était un garçon charmant, un garçon doux. J'ai jamais eu de misère avec. S'il arrivait chez nous, il était chez lui. Il avait sa chambre. Pactait ses affaires, puis il sortait. Et c'était un garçon qui avait de l'aisance sans effronterie, vous savez.
Notons au passage que le jeune Johnson fait 2 ans de théologie au séminaire de Saint-Hyacinthe, se croyant appelé à la prêtrise.
C'était un élève magnifique, très intéressant, très vivant, s'occupant de tout, réussissant très bien dans ses classes. Et puis, je me souviens qu'il. Il a à peu près eu tous les prix d'excellence durant tout le temps de ses études. Il avait peut-être un point faible, un peu, il ne s'occupait pas beaucoup de sport. Mais à peu près tout à part de ça. La musique, le chant, le théâtre. Nous avions ici, en particulier, dans le temps, une cour civile et criminelle. Un peu comme un parlement école, mais une cour école. Une cour civile et criminelle. Puis il s'est beaucoup occupé de tout ça. Il a été avocat de la défense, il a été président. Ah, il était ouvert à tout. Des possibilités de travail dans ce domaine-là. Il s'est occupé aussi de toute activité, de plusieurs activités en marge de l'enseignement même, comme activité des groupements scolaires, des groupements d'associations de jeunesse, d'action catholique. Je ne sais pas si le fait d'être resté en contact avec la maison depuis, puis d'avoir eu des rencontres assez fréquentes avec ses confrères, avec ses professeurs, auxquels il était resté attaché, nous ont fait oublier certains points faibles de son activité d'étudiant, mais le souvenir que nous en gardons tous, là, le beau fercher, c'est un élève dont les relations sociales ont toujours été très faciles, très agréables, et pour ses maîtres, et pour ses confrères.
Il a dû, comme étudiant, et c'est ce qui souvent façonne nos hommes dans tous les domaines, gagner ses cours de peine et de misère en travaillant et ayant peut-être un peu d'aide de certains mécènes.
Au sortir du collège, il s'inscrit à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Déjà, ses qualités de chef le distinguent. Il est rapidement élu président de l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal pour l'année académique 1938-39.
J'ai été un de ses compagnons d'université, n'étant que 2 ans, en fait, après lui, à la faculté de droit. Déjà à ce moment-là, on pouvait observer en lui ce
tempérament, pour la vie politique qu'il a toujours manifestée depuis lors. Et je pense qu'on pouvait dès lors soupçonner sa détermination et sa ténacité à vouloir poursuivre une carrière politique, celle qu'il a effectivement connue et qui aurait pu normalement, bien sûr, se prolonger beaucoup plus longuement. Je pense que sur le plan personnel, tous ceux qui sont entrés en contact avec lui, ne serait-ce que d'une façon occasionnelle, s'accordent à reconnaître les qualités humaines qui le caractérisaient. Puis ceux qui peuvent témoigner que, autant il était un jouteur dur, implacable sur le plan politique, autant il pouvait manifester de charme dans ses relations personnelles. Évidemment, si l'on considère les intérêts de l'ensemble du Québec, il faut bien constater que sa mort va créer un vide considérable dans la vie politique québécoise, pour ne pas dire dans la vie politique canadienne tout entière. Nous sommes à une époque particulièrement difficile, rempli de remous, où Daniel Johnson réussissait à maintenir certains objectifs fondamentaux pour l'avenir du Québec, tout en agissant comme modérateur, dirais-je, des divers éléments à tendance opposée dans notre société.
Ses activités à la GUM ne sont qu'un exemple de son profond engagement social. À cette période de sa vie, il occupe des postes responsables dans différents organismes. Il est successivement vice-président de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française, président de la Fédération canadienne des étudiants catholiques, président de la section française de la jeunesse catholique du Canada. De plus, en 1939, il est délégué au Congrès international Pax Romana, réunissant des étudiants catholiques de 39 pays. Il devient alors vice-président de cet organisme. Le problème des relations entre le Québec et le reste du Canada semble déjà lui tenir à cœur, puisqu'à la même époque, il est délégué des universités du Québec pour donner une série de conférences dans les universités d'Ontario. Le 2 juillet 1940, Daniel Johnson est admis à la pratique du droit. Immédiatement, il va mettre son talent au service de la société québécoise en devenant conseiller juridique de nombreux organismes. Chambre de commerce des jeunes, Union des Latins d'Amérique, Association des hebdomadaires canadiens-français, Conseil central des syndicats nationaux de Montréal, Association professionnelle des employés, Dacton Rubber.
Je siégeais sur le bureau de direction de la Chambre de commerce des jeunes de Montréal. Monsieur Johnson était notre aviseur légal au temps où nous avons... Cette Chambre de commerce des jeunes a fait définitivement parler d'elle lors de ces grands déploiements de pot-pourri qui étaient très connus à cette période. Et M. Johnson suivait régulièrement nos activités et il était définitivement remarqué puisque par la suite, il a été nommé aviseur légal de la Chambre de commerce provinciale et de là au national.
À ce moment-là, nous étions un groupe de jeunes qui rêvaient de refaire les cadres politiques tant au provincial qu'au fédéral. Et ce fut aussi, ça c'est l'élément humain, le moment où j'ai rencontré une collaboratrice du quartier latin.
Cette jeune collaboratrice, c'est Marie-Reine Gagné, fille de maître Horace Gagné de Montréal. Elle était étudiante à la faculté de lettres. Il l'épouse le 2 octobre 1943. Ils auront 4 enfants. Daniel, Pierre-Marc, Diane et Marie.
Le premier ministre du Québec, quel qu'il soit, n'a pas grand temps à consacrer à sa famille. Il est tellement pris par des décisions extrêmement difficiles qu'il, même à la maison, qu'il n'est pas toujours, disons, en train pour participer à la vie familiale. C'est le mauvais côté de la politique. C'est la famille qui en souffre, mais Dieu merci, chez moi, la mère a suppléé. Elle s'est consacrée d'abord à la famille et elle a sacrifié plusieurs sorties avec son mari afin de s'acquitter et de son rôle de mère et en partie du rôle qu'aurait dû jouer le père auprès des enfants. et je dois lui en rendre hommage. Jusqu'en 1942, je n'avais aucun goût pour la politique. Je partageais avec tous ceux de ma génération les préjugés courants sur la politique. À ce moment-là, comme aujourd'hui, peut-être un degré moindre aujourd'hui, je l'espère du moins, on disait de la politique que c'était un métier sale, un métier dont on ne devait pas s'occuper. Mais un bon jour, je me suis résigné, disons intellectuellement, à faire de la politique parce que il me fut démontré, dans une circonstance bien exceptionnelle, que la politique, c'était une chose noble et qu'il fallait, même si le métier était dur, y entrer si on voulait réellement rendre service aux siens. Et c'est ainsi qu'en 1942, je me suis résigné intellectuellement à faire de la politique et qu'en 1946, l'occasion s'en est présentée, je l'ai saisie.